Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Graphite 94.9 FM, autour de Compiègne et un peu plus loin, et puis aussi sur graphite.net en ligne. Alors aujourd'hui, on présente des projets réalisés par les étudiantes et les étudiants de l'Université de Technologie de Compiègne. Projets qu'ils ont réalisés dans le cadre du cours IS03, l'authéquisation et numérique. Donc moi, je m'appelle Stéphane Croza et je suis en studio avec 5 étudiantes et étudiants, donc Stéphane Genevet, Rawad Bouhamdan, Jade, Johan et Marion. Bonjour à tous les 5.
Bonjour. Bonjour.
L'objectif du cours, on va le découvrir à travers vos projets. C'est un cours de conception socio-écologique. Donc on va voir un petit peu ce que ça a donné dans les différentes déclinaisons que vous avez faites. Et puis, je vous propose qu'on rentre directement donc, dans le premier projet. Il s'appelle Incubateur Sobre. Quant au deuxième projet, il s'appelle 10 heures et il nous emmènera dans le monde de l'agriculture. Mais en attendant, on va donc attaquer par le projet Incubateur Sobre de Stéphane et Rawad. Et on attaque avec un extrait sonore.
So the idea, to give you a bit of context of what we're trying to do is, this is kind of an example of the problem we're dealing with. So essentially, you know, we need lab equipment to do, or people need lab equipment to do studies. You need to do teaching, you need to do research. But one of the significant problems faced in some countries is that they don't have the lab equipment. So some of the examples that we have here of some of the challenges they face, for example, scientific equipment is just very expensive, and when it comes to importing it, it's really even more expensive, so that kind of raises the cost. Then we have kind of repair and maintenance are some of the kind of key issues. Then we kind of, equipment comes from a variety of different companies, sometimes proprietary, so there's not much that you can do. And then in terms of kind of the designs of some of the equipment just don't suit the global south.
L'extrait que vous venez d'écouter est tiré d'une conférence de Jason Elsie-Nurse, chercheur et universitaire spécialisé dans la cybersécurité. Dans cet extrait, Nurse souligne un enjeu structurel majeur dans le domaine de l'éducation et de la recherche scientifique, en particulier dans les pays du Sud. Il met en évidence que la réalisation d'activités pédagogiques et de projets de recherche dépendent fortement de l'accès à un équipement de laboratoire adéquat. Or, de nombreux pays à faible revenu ne disposent pas des infrastructures matérielles nécessaires. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, un coût particulièrement élevé du matériel scientifique ou bien des difficultés de maintenance et de réparation. Bonjour, je me nomme Stéphane Genevet et je suis avec Rawad Bouhamdan aujourd'hui. Nous allons vous parler du projet Incubateur Sobre. Ce projet nous a été proposé par Thibaut Soulibou-Babin ainsi que Brunel Archambault, tous deux chercheurs au CEA, Centre d'énergie atomique. Notre but est d'aider à trouver un moyen d'améliorer l'accessibilité des incubateurs microbiologiques pour des laboratoires et hôpitaux, notamment pour les pays dits en développement. Tout d'abord, voyons ensemble qu'est-ce qu'un incubateur microbiologique. Il s'agit de l'un des équipements phares des laboratoires de microbiologie, une enceinte chauffée à une température constante pour permettre la croissance de cultures bactériennes, notamment de bactéries dites thérapeutiques. Notre projet va donc prendre deux phases bien distinctes. D'une part, nous cherchons à imaginer un incubateur microbiologique lotéquisé qu'on nommera incubateur type ou incubateur modèle. D'autre part, nous cherchons à concevoir un site web facilitant l'accès aux matériaux de fabrication open source, permettant de fonder une communauté dédiée à la fabrication, à l'amélioration et à la gestion d'incubateurs microbiologiques. Dans ce projet, nous proposons 4 livrables liés à ces deux phases. Nous vous présenterons l'Incubatech, qui va être un catalogue en ligne de tutoriels pour fabriquer des incubateurs low-tech, une cartographie des matériaux et composants pour aider chacun à trouver des ressources proches de chez lui. Nous avons également envisagé d'inclure un forum communautaire pour faciliter les communications entre utilisateurs. Et au centre de tout ceci, nous avons décidé de mettre en avant l'incubateur type évoqué précédemment et qui fera finalement office d'édifice de notre projet. Pour illustrer les différentes parties qui structurent notre projet, nous allons vous parler des concepts de maquettage et d'analyse, qui sont deux concepts complémentaires. Dans le maquettage, nous imaginons des petites histoires décrivant le fonctionnement des produits et sous-produits de notre projet, en essayant de les mettre dans un contexte réel d'usage. Dans l'analyse, nous essayons de mettre en exergue les services que les différents produits introduits dans les histoires du maquettage fournissent. Ces derniers doivent prendre la forme de l'expression de fonction. Enfin, nous avons effectué une analyse de ces fonctions grâce au concept de la low-techisation. Laissez-moi vous raconter dans quel contexte nous avons introduit l'incubateur type. Étant donné que le site Incubatech comporte plus d'une centaine d'incubateurs, le choix d'un modèle pour la conception devient compliqué pour certains. C'est dans ce contexte que l'incubateur modèle dans le site intervient. Cet incubateur est la référence du site, celui qui a été le plus approuvé par la communauté. Il sert de guide pour tous les artisans souhaitant débuter dans la confection d'un incubateur en détaillant toutes les étapes nécessaires à sa réalisation. Voici un exemple d'histoire qui met en scène ce produit. Djibril découvre le site Incubatech pour trouver des idées d'incubateur low-tech. Malheureusement, la plateforme comporte plus d'une centaine de modèles et il se perd rapidement dans les différentes pages. C'est alors qu'il remarque l'incubateur modèle, épinglé en haut du site comme repère principal. Présenté comme le modèle le plus approuvé et le plus liké par la communauté, il sert de guide pour tous ceux qui ne savent pas par où commencer. En cliquant dessus, Djibril accède au tutoriel pour fabriquer l'incubateur modèle. Grâce à cette mise en avant, il comprend immédiatement qu'il peut utiliser cet incubateur comme point de départ pour se repérer sur le site et orienter son propre projet. Première fonction, l'incubateur modèle permet à un utilisateur de se repérer sur le site. En effet, il s'agit d'un exemple concret pour les utilisateurs de ce qu'est un incubateur low-tech. De plus, il s'agit là d'un repère ou d'un point de départ pour les utilisateurs en manque d'inspiration pour la conception de leur propre incubateur low-tech. Seconde fonction, l'incubateur modèle permet à un utilisateur de fabriquer son propre incubateur. L'incubateur modèle va apporter ou non la satisfaction et la motivation à un utilisateur de construire le même type d'incubateur ou un autre modèle, puisqu'il pourra visualiser les différentes étapes de construction de celui-ci. Intéressons-nous maintenant au pilier de la low-techisation de celui-ci. En valeur, nous avons mis en convivialité et pérennité que le tutoriel est simple et aide les étudiants à fabriquer un incubateur. En soutenabilité, l'incubateur utilise des matériaux recyclés et locaux pour réduire le coût et l'impact environnemental. Ce modèle va être validé par la communauté pour garantir une fabrication sûre et respectueuse des normes sanitaires. C'est ce qui fait la responsabilité de notre projet. En levier politisé, l'incubateur montre qu'une alternative simple et peu chère aux incubateurs industriels est possible. Enfin, en tension, suivre ce modèle à la lettre peut limiter la créativité et les adaptations personnelles des utilisateurs. Je vais maintenant laisser la parole à mon binôme Rawad.
Bonjour, je m'appelle Rawad et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un outil qui nous a beaucoup aidé à prendre du recul sur notre projet d'incubateur low-tech, celui des 7 péchés du greenwashing. Cet outil se concentrera uniquement sur le produit de l'incubateur modèle que vous a présenté Stéphane. Pour commencer, nous allons nous intéresser au premier point, celui de l'absence de preuves, c'est-à-dire toute affirmation écologique qui ne peut pas être prouvée clairement ou vérifiée par un organisme indépendant. Dans notre projet, nous mettons en avant la faible consommation énergétique de nos idées d'incubateur grâce à la marmite norvégienne. Le principe est simple, isoler un récipient dans un cuisson, donc ici l'incubateur, et laisser chauffer avec la chaleur déjà présente dans l'incubateur. Pour la confectionner, il faut un contenant isolé avec autour des matériaux isolants et ajouter une couche réfléchissante pour garder la chaleur. Nous pouvons utiliser également la peinture noire et l'énergie solaire pour chauffer l'incubateur. En effet, la couleur noire permettra une conservation de la chaleur solaire sans importante dissipation de chaleur. En réalité, aucun test global n'a été fait pour vérifier concrètement l'efficacité de ces solutions. Et c'est également le cas pour les batteries lithium-ion d'ordinateurs que nous voulons réutiliser. Nous ne connaissons ni leur réelle autonomie, ni leur durée de vie, ni leur impact environnemental final. Et puisque nos incubateurs sont encore au stade conceptuel, nous ne pouvons pas produire des bilans carbone. Sans ces données, c'est difficile d'affirmer que notre incubateur est plus écologique qu'un incubateur industriel, car nous risquons simplement de surestimer ses performances. Le deuxième point concerne les compromis cachés, c'est-à-dire expliquer qu'un produit est vert en ne s'appuyant que sur très peu de critères et en ignorant d'autres impacts importants sur l'environnement. Par exemple, nous avions prévu d'utiliser des capteurs Arduino pour permettre le fonctionnement d'un thermostat. Or, il faut qu'on prenne en considération l'origine de ces capteurs. Les minerais utilisés pour sa construction ont-ils été puisés dans des mines qui ont mis en péril la vie et la santé des gens? Ont-ils été traités chimiquement mettant à mal la santé de l'environnement? Quel a été le coût environnemental de l'importation de ces capteurs? Toutes ces questions doivent être prises en compte si nous voulons mobiliser ces composants. De plus, réutiliser des batteries semble intéressant, mais ça nécessite un vrai travail de vérification et de maintenance pour garantir leur conformité. Est-ce qu'elles sont bien utilisables, pas trop usées, et combien de temps peuvent-elles encore servir? Vient ensuite la question de la non-pertinence, c'est-à-dire faire une affirmation écologique qui n'est pas vraiment importante pour un consommateur responsable. Par exemple, nous insistons parfois sur la résistance à l'éthanol 70%, alors qu'il s'agit d'une norme courante dans les hôpitaux. Mettre ce point en avant n'apporte pas réellement d'avantage écologique. Enfin, le dernier point concerne celui du moindre mal. Il consiste à mettre en avant un avantage écologique au produit afin de détourner l'attention du fait que ce produit est encore nocif. Dans le cadre du projet, on prend l'exemple de la réutilisation du caoutchouc des chambres à air qui est pertinente pour donner une seconde vie à un déchet durable, mais le caoutchouc n'est pas biodégradable, ce qui pose des questions sur sa fin de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous étions Rawad et Stéphane et nous vous avons présenté un extrait de notre projet d'incubateur Lieu de Téquisé.
Merci Stéphane et Rawad pour votre projet. Une petite pause musicale avant le second projet avec Trio.
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler. Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi, l'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs sur la même route, forcés de quitter leur terre, coûte que coûte. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. C'est l'appel des étoiles dans la ville folle, a changé mon destin d'homme parmi les hommes. Retrouver l'essentiel après des années, quand les marchands de sable veulent te faire oublier. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois?
Nous sommes sur Graphite 94.9 FM et graphite.net en ligne. Aujourd'hui, on présente quelques projets réalisés à l'Université de Technologie de Compiègne dans le cadre du cours Lautéquisation et Numérique. On vient d'entendre la présentation du projet Incubateur Sobre par Stéphane et Rawad. Et à présent, on passe sur le projet Deezer de Jade, Johan et Marion. Le projet Deezer s'inscrit dans le contexte agroécologique. Ils vont nous le présenter. Juste avant de commencer, je précise que Johan, Marion et Jade ont décidé de scénariser ce passage à la radio de façon originale et donc de nous faire une présentation de leur projet sous la forme d'un jeu de rôle. Le projet étant encore dans sa phase de conception, ceci vise à illustrer les objectifs et la mise en place du projet comme s'il avait déjà vu le jour. Bien sûr, les rôles qui sont tenus ici sont fictifs, mais ils représentent bien des acteurs tels qu'ils sont conçus dans le cadre du projet Deezer. C'est parti.
Bonjour et bienvenue, je m'appelle Marion, nous sommes le 8 décembre 2030 et aujourd'hui au programme, nous présentons le projet Deezer. Il a été initié en 2025 à l'Université de Technologie de Compiègne, dans le cadre de l'UVIS3, intitulé « Lautéquisation et numérique ». C'est Odalric Ambrim-Maillard qui est à l'origine de cette idée.
Bonjour, je m'appelle Odalric Ambry-Maillard, je suis mathématicien chargé de recherche chez INRIA, donc l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, spécialisé dans les sciences du numérique, et mes recherches portent sur l'intelligence artificielle décisionnelle, donc celle qui permet d'apprendre à prendre des décisions, à faire des décisions stratégiques, par exemple quand on joue aux échecs ou au go. La particularité de mes recherches, c'est que j'applique cette technique pour l'aide à la compréhension des mécanismes sous-jacents à l'agroécologie. Et donc l'idée, c'est d'aider des stratégies d'expérimentation pour comprendre le plus vite possible les bonnes pratiques dans des contextes les plus diversifiés possibles. Voilà, donc c'est un sujet passionnant qui est à l'interface entre plusieurs disciplines, hein, les mathématiques d'un côté, l'agronomie de l'autre, et qui demande du coup de jongler avec plusieurs outils, plusieurs féminismes et plusieurs communautés. Projet qui va être utile pour nous dans la recherche, à la fois côté mathématique, à la fois dans l'intelligence artificielle décisionnelle et également en agronomie, donc conjointement avec mes collègues notamment de l'INRAE et du CIRAD avec qui je travaille.
On vient d'entendre Odalric Ambry-Maillard lui-même. Donc, grâce à cette idée, il a pu s'appuyer sur les compétences apprises par 3 étudiants. Cette idée a germé et a d'abord été testée au Sénégal par 44 agriculteurs et est maintenant bien ancrée dans la région des Hauts-de-France. Plus de 400 agriculteurs y ont adhéré. Deezer est en réalité un acronyme qui signifie dispositif sobre pour l'expérimentation paysanne et les recommandations contextuelles. Autrement dit, ce projet vise à rendre l'agroécologie plus accessible à tous les agriculteurs via un système de conseils personnalisés. Nous avons la chance d'être en compagnie de Johan, un des concepteurs du projet, et de Jade, agricultrice qui utilise Deezer depuis 3 ans déjà et qui a dernièrement participé à ces améliorations. Bonjour à vous deux et merci d'être venus.
Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, Johan, je suis curieuse de savoir quelles ont été les sources d'inspiration de Deezer.
Oui, alors pendant la conception du projet, nous avons d'abord mené une étape de veille pour voir ce qui existait déjà, ce qui avait déjà été testé. Et à l'époque, nous avions trouvé un article du site TechnoServ qui prenait l'exemple de la situation d'agriculteurs en Tanzanie. On avait alors pu comprendre les obstacles majeurs rencontrés par ces petits agriculteurs tanzaniens et ce qui ressortait en fait, c'était le manque d'informations sur le commerce ou la connaissance technique liée à l'agriculture. Et pour y pallier, du coup, un projet avait vu le jour. Il s'appelait le Tigo Kilimo. C'était un service mobile en Tanzanie qui fournit diverses informations agronomiques sur le prix du marché ou sur la météo aux exploitants tanzaniens sous forme du coup de SMS. On s'en est du coup fortement inspiré pour imaginer le système de recommandation par SMS des agriculteurs utilisant Deezer. La différence, c'est que nous avons voulu insérer la dimension expérimentale à ce projet, et ce, en s'appuyant directement sur des expérimentations des agriculteurs. Puis, la question de la numérisation s'est ensuite posée. Nous avons ainsi effectué des recherches sur la reconnaissance de l'écriture manuscrite, et nous avons déduit que les principales difficultés rencontrées par ces agriculteurs, par des systèmes qui étaient déjà existants, étaient la confusion entre 2 lettres très très proches ou des caractères très similaires. En revanche, l'utilisation de traits ou de sigles du même type pouvait a priori aider à la reconnaissance.
Ah oui, je vois. Dans l'onglet veille de votre site internet, tous les articles sources y sont, notamment dans la webographie et la bibliographie. Vous venez de nous parler de l'utilisation du téléphone et des SMS, mais il y en a en fait 3 autres thèmes, l'agriculture numérique, la reconnaissance et récupération de données, ou encore la génération et le traitement des données. Par exemple, si je prends le premier article dans l'agriculture numérique, on y retrouve celui de Claire Rogel-Gaillard et de Jacques Sainte-Marie, intitulé « Agroécologie et numérique pour répondre à la transition écologique » publié en 2024. L'agroécologie étant un thème primordial dans le projet, vous allez entendre un court extrait audio expliquant concrètement ce qu'est l'agroécologie.
Partout dans le monde, les communautés convergent autour d'un concept simple mais puissant, l'agroécologie. L'agroécologie est une façon de cultiver avec la nature, et non pas contre elle. Elle renforce la résilience au changement climatique et aux épidémies, en associant différentes plantes et animaux sur la base des connaissances propres aux agriculteurs sur leur environnement local. L'agroécologie ne dépend pas des produits chimiques pour fertiliser les cultures et lutter contre les ravageurs. Elle mise sur la diversité. Et cette diversité dans les champs se traduit par une diversité d'aliments frais et nutritifs pour les communautés. Elle offre aussi des moyens de subsistance résilients, basés sur la coopération, la solidarité et sur des circuits courts qui engendrent des revenus plus justes pour les communautés agricoles.
Merci à IPES Food pour cette explication particulièrement pertinente. Pour rebondir sur ce dont vous parliez, Johan, le site TechnoSœur vous a inspiré afin d'utiliser les expérimentations des agriculteurs pour les recommandations. Et c'est un carnet qui est au cœur du projet pour y répondre, n'est-ce pas ?
C'est ça, tout à fait. Le principe est de proposer à chaque agriculteur un carnet papier dans lequel il pourrait retranscrire toutes ses observations et actions chaque jour, tout comme il le ferait dans un journal de bord, en fait. Par exemple, s'il a épandu des bouts d'épuration sur 5 hectares, il pourra l'indiquer directement avec la codification. Parce que du coup, le carnet permet notamment aux agriculteurs d'avoir une vue d'ensemble sur leur rendement, leurs techniques et leurs données. Et ensuite, ces données elles permettent d'obtenir un suivi sur l'avancée des cultures au fil des semaines grâce à des conseils du coup, reçus par SMS. Et du coup, voilà, comme je l'ai dit, la particularité, c'est que pour écrire dans le carnet, il faut suivre un code d'écriture spécifique à Deezer. C'est la condition pour permettre la reconnaissance numérique des écritures manuscrites du coup, par nos systèmes informatiques. Et pour que ça ne soit pas un système trop compliqué d'utilisation pour les agriculteurs, le carnet a été co-conçu avec eux directement. Et Jade vous expliquera sûrement mieux que moi.
Merci Johan. Alors j'ai pu obtenir le carnet Deezer lors d'un rassemblement il y a 3 ans avec plusieurs collègues agriculteurs et agricultrices. Donc c'est la coopérative Deezer qui a tout organisé et je me souviens que tu nous avais présenté le projet toi-même Johan. Depuis, je m'en sers tous les jours, donc il a fallu que je le prenne en main, bien sûr, mais les explications pour le remplir sont données au début du carnet, et c'est très clair. Donc en général, il est préférable de noter nos observations et actions en notant d'abord un P majuscule pour désigner la parcelle, suivi du numéro de la parcelle elle-même. Ensuite, on écrit un tiret, puis un N, par exemple, pour signifier nord, si l'action que je veux noter a été réalisée au nord. Ce sera S pour sud, E pour est, etc. Ensuite, c'est assez adaptable. J'écris à nouveau un tiret et je marque là où les premières lettres des cultures concernées. Donc par exemple, BL pour blé. Puis encore un nouveau tiret et je précise un numéro correspondant au nombre de plants touchés. Donc j'indique cela uniquement s'il est nécessaire. Après avoir mis un dernier tiret, je note le mot en entier en majuscule pour désigner l'action ou l'observation réalisée, ce qui peut être épandage par exemple. Donc j'ai d'abord rempli sur une page les informations constantes de mes champs, comme les coordonnées GPS de mes parcelles ou mes types de cultures. Donc en l'occurrence, c'est du blé pour moi. Après, tous les jours, je remplis le carnet en indiquant ce que j'ai fait. Donc cela peut être de l'épandage, de l'arrosage par exemple. À chaque fois, j'essaye d'attribuer une note sur 10 à chaque technique, en prenant en compte donc la pénibilité, l'efficacité, l'impact sur la biodiversité, etc. Je note aussi ce que j'ai observé, donc comme la pousse de mon blé ou le passage de sangliers pendant la nuit. La seule difficulté est qu'il faut que je prenne soin de bien écrire et de bien utiliser les noms de code, mais je trouve qu'ils sont assez intuitifs, comme je vous les ai décrits tout à l'heure. Pardon. Et puis, je sais que cela simplifie ensuite la numérisation de mes données par reconnaissance automatique.
Ok, je comprends mieux le fonctionnement du carnet. Par contre, j'ai encore du mal à comprendre la numérisation. Vous dites qu'il faut que les données passent du format écrit au format numérique. C'est ainsi que les données seront utilisables par les algorithmes. Mais si stocker les données dans un carnet ne demande pas beaucoup de ressources, numériser l'intégralité du carnet doit faire un nombre conséquent de données. Ça demanderait beaucoup de ressources et irait à l'encontre de la dimension de l'authentification promue par Deezer, non ?
Effectivement, ce stockage n'est pas sans impact environnemental, mais l'idée est de le réduire le plus possible, justement. Donc les données en fait, seraient stockées localement avec un serveur de stockage pour chacune des régions où le projet Deezer se trouve, ce qui offre plusieurs avantages parce que non seulement du coup c'est décentralisé, mais ça limite aussi la pollution. Parce qu'on ne voulait pas reproduire l'erreur de gros data centers très énergivores, car bien que ça reste très approximatif, plus on stocke de données généralement sur un serveur, plus celui-ci aura un impact environnemental important. Du coup, chaque serveur a la même architecture. On a pensé à des serveurs de type NAS, c'est-à-dire un NAS, en fait, c'est une alliance de plusieurs disques durs, dans notre cas des disques durs SSD qui sont stockés dans un boîtier NAS. Du coup, ces disques durs, ils sont mis en fonctionnement simultanément pour, entre autres, stocker les données ou réaliser d'autres tâches. Et en fait, le but, du coup, c'est d'optimiser cette configuration en choisissant parmi les différents boîtiers NAS et disques durs du marché ceux qui ont la plus faible consommation de ressources. Nos algorithmes n'étant pas très puissants, on peut se permettre d'aller chercher des composants assez peu énergivores qu'il y a sur le marché. Ainsi, toutes nos infrastructures sont optimisées pour réduire l'impact et s'opposer au sens dans lequel va l'innovation dans ces dernières années, ce qui s'inscrit tout de même dans une démarche de dotéquisation, bien que la nature de notre projet ne permette pas de nous affranchir totalement de l'informatique.
D'accord. J'ai juste une question concernant la numérisation des données. Jade, vous utilisez votre téléphone portable, mais est-ce que ça fonctionne aussi pour les agriculteurs qui n'en ont pas? Ou je ne sais pas, qui ont des téléphones sans appareil photo par exemple? Il y a quand même 7% de la population mondiale qui n'a ni téléphone fixe ni téléphone portable d'après l'INSEE.
Alors, en effet, je scanne les pages de mon carnet grâce à mon appareil photo directement sur mon téléphone. Et ensuite, le texte est identifié automatiquement. Donc, je n'ai qu'à le sélectionner et j'envoie mes données de texte directement par SMS à l'informaticien qui les gère. Et comme je réalise le scan au fur et à mesure, ce n'est jamais très très long. Pour ce qui est de mes confrères qui n'ont pas de téléphone, ils peuvent être accompagnés par un conseiller agricole de façon hebdomadaire. Et donc, c'est son rôle en fait, de numériser le carnet et de transmettre les analyses et les recommandations en personne. Donc naturellement, cette aide a été mise en place prioritairement dans les régions où il y a peu d'accès aux smartphones.
Oui, et lors du développement de Deezer aussi, on ne souhaitait pas favoriser l'achat d'un smartphone uniquement pour cette technique, d'où cette alternative.
Ok, mais du coup, comment sont analysées les données récoltées?
Alors, on a choisi de créer une plateforme numérique qui contient plusieurs compagnons algorithmiques. En fait, une fois que les données arrivent sur nos serveurs locaux, nos informaticiens utilisent des algorithmes d'abord pour déstructurer les données, puis un autre algorithme qui permet de réaliser des calculs statistiques, comme des calculs de moyenne, par exemple, et en prenant en compte le nombre de fois qu'une action a été répétée et la note que lui a attribuée l'agriculteur à chaque fois. Ces calculs, ensuite, sont utilisés par les compagnons algorithmiques, des algorithmes qu'on dit de type UCB, qui évaluent alors les techniques les plus efficaces en fonction des environnements de chaque agriculteur. Les critères d'efficacité prennent en compte le rendement, mais surtout l'impact des techniques sur la biodiversité ou l'utilisation des ressources, par exemple. Et ces compagnons algorithmiques qui proposent ainsi des recommandations pour chacun des agriculteurs.
Puis vous renvoyez ces conseils aux agriculteurs, je suppose. Comment est-ce que ça marche ?
Eh bien, c'est l'informaticien qui s'en occupe. Une fois que les algorithmes ils ont généré les recommandations, ils sont envoyés directement aux agriculteurs par SMS.
Oui, donc ensuite, je reçois moi un SMS quotidiennement qui me permet d'avoir un retour suite aux analyses de la veille. Donc, par exemple, avec plusieurs collègues, nous avons testé deux types de paillage, donc l'un avec des feuilles et l'autre avec de la paille de céréales. Nous nous sommes répartis les techniques et nous avons suivi l'évolution pendant plusieurs mois. Et donc à chaque fois, nous avons donné une note et scanné les données. Et nous avons récemment terminé les expérimentations et l'informaticien a pu utiliser les différents algorithmes dont vous a parlé Johan pour nous recommander à chacun la meilleure technique à utiliser. Et donc nous avons reçu le SMS il y a une petite semaine et je vous propose de vous le lire. Donc bonjour Jade, suite à l'expérimentation de différents types de paillage dans la région, nous vous informons que le paillage avec de la paille de céréales serait le plus adapté dans votre situation.
Tout a été pensé et c'est remarquable. Alors je continue à me balader sur votre site et je viens de voir les pages d'analyse et d'évaluation. Reprenez-moi si je me trompe, mais ce sont deux phases qui permettent d'explorer plus en détail les caractéristiques de l'autéquisation du projet, c'est-à-dire de vérifier que le projet a été développé de sorte à être plus soutenable environnementalement, plus responsable socialement et plus convivial techniquement. Par exemple, sur la page d'évaluation, on retrouve plusieurs outils qui servent à compléter l'analyse concernant le processus de l'autéquisation du projet et ses éventuelles conséquences. Si on prend l'outil PARI, on peut citer la méthode SMART, qui permet de bien définir des objectifs sur le court ou le long terme, ou encore les 7 péchés du greenwashing, qui évite de tomber dans le déni environnemental, si je puis le dire ainsi. Puisque je navigue sur la page d'évaluation, quelles précisions pourriez-vous m'apporter sur l'outil Carré du Soin, par exemple ?
L'outil Carré du Soin, il permet de montrer comment le projet permet de contribuer dans ce qu'on appelle une logique de soins à travers 4 grands thèmes. Le premier, c'est la recherche de connaissances, dans lequel notre projet s'inscrit activement, car en fait, les données agricoles, comme dans l'exemple de l'expérimentation du paillage qui a déjà été cité, ces données agricoles sont mobilisées pour la recherche scientifique dans le domaine de l'agronomie, car les agronomes contribuent à imaginer des méthodes agroécologiques et peuvent ainsi avoir des données de terrain pour mesurer l'efficacité de leur réflexion et l'étendre. Et l'analyse de ces données permet également de comparer les différentes techniques utilisées par plusieurs agriculteurs pour trouver les plus optimales dans le cadre de l'agroécologie. Ensuite, une deuxième thématique de ce carré du soin, c'est de considérer les humains dans notre approche, ce qui est mis en œuvre grâce à un carnet papier conçu pour une utilisation pratique sur le terrain et en plaçant l'agriculteur au centre en fait, du fonctionnement de Deezer, car c'est lui qui, dans la plupart des cas, en tout cas, qui va numériser et qui va remplir le carnet.
La troisième thématique s'intitule « Expliquer et susciter le débat ». Et donc pour cela, je trouve que c'est un super projet, car cela a déjà créé le débat à plusieurs reprises avec les collègues, car nous avons pu partager nos ressentis à la fois sur nos expérimentations qu'on avait pu mener, mais aussi sur les recommandations qu'on a reçues de la part de l'algorithme. Je me souviens par exemple d'une discussion que j'avais eue l'année dernière avec mon confrère Serge. Nous avions tous les deux eu la recommandation de semer du blé Géopolis pour les prochains semis, à faire, ce que nous avons tous les deux fait. Hein. Et un an après, donc lors de cette fameuse discussion, Serge m'avait dit qu'il était ravi parce qu'il avait eu un super rendement et que ses blés avaient bien résisté aux maladies. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment le cas. Donc je lui expliquais que, en parallèle de ça, j'ai attribué des mauvaises notes sur mon carnet et que j'avais eu des nouvelles recommandations depuis, que j'ai suivies, mais évidemment, je suis toujours en attente de résultats. Et donc, vous voyez, cela crée des discussions qui n'auraient peut-être jamais eu lieu autrement, quoi. Et finalement, la dernière thématique du carré du soin est de s'insérer dans la nature, ce qui est le cas pour Deezer, pour plusieurs raisons. Alors déjà, les technologies utilisées limitent les impacts sur la biodiversité et l'environnement. Et en plus de ça, quand je reçois mes SMS, j'ai remarqué que ce sont souvent des pratiques agroécologiques qui me sont conseillées.
Merci à Johan et Jade pour cette intervention très enrichissante. Si vous souhaitez soutenir le projet, je vous renvoie sur leur site internet. Il y a même des vidéos récapitulatives et une affiche pour nos auditeurs les plus intéressés. Tout est accessible sur le site public du projet. Chaque opinion est entendue et le projet Deezer ne pourrait qu'être amélioré si vous avez à faire part de retours constructifs.
Merci à tous les trois. Donc, nos auditeurs l'auront compris, ceci n'était qu'un scénario. Le projet est toujours en phase de conception. Mais donc, comme ça a été dit, voilà, le projet ainsi que le projet précédent qui vous a été présenté aujourd'hui d'incubateur, ainsi que l'ensemble des projets IS3, eh bien, peuvent être retrouvés à partir du site l'onum.fr. De là, vous pourrez retrouver tous les cours et tous les projets. Alors, merci vraiment à tous les cinq de nous avoir présenter là vos différents projets. On va peut-être faire une petite pause musicale histoire de laisser le temps à vos collègues de formuler quelques questions. Et puis après Midnight Oil et Beds Are Burning, eh bien on viendra pour une ou deux questions pour chacun des groupes. C'est parti.
River broke, the blood was
Sur Graphite aujourd'hui, eh bien, on présente et on discute de projets de low-techisation dans le cadre du cours Low-techisation et numérique IS03 de l'Université de Technologie de Compiègne. Donc, je suis en studio avec Stéphane, Rawa, Jad, Johan et Marion. Donc, moi, je suis Stéphane. Et donc, là, bien, tous les six, on va discuter un petit peu autour des projets qui nous ont été présentés. Donc, pour rappel, on nous a présenté le projet Incubateur Sobre et le projet 10 heures d'accompagnement de pratiques agroécologiques. Écoutez, Rawad et Stéphane, je vais vous poser une première question, plutôt allez, un couple de premières questions. Le premier, c'est une question, donc hein, les questions sont posées par vos collègues qui ne passent pas aujourd'hui, qui passeront la semaine prochaine. Et donc, ils se demandent en fait si l'incubateur low-techisé que vous nous avez présenté, notamment l'incubateur type, eh bien en fait, est-ce qu'il sera compatible avec les normes, les standards qui sont aujourd'hui utilisés par les laboratoires et les industries dans nos pays. Je vous laisse répondre à cette première question, puis je vous en poserai une autre après, si vous voulez bien.
Donc, lors de la présentation du projet, nous avons parlé d'une des normes sanitaires de l'incubateur qui consiste à résister à l'éthanol 70%, donc lorsqu'on veut nettoyer l'incubateur pour limiter la croissance de biofilms. Cependant, il faut souligner aussi que les normes européennes, que ce soit dans les hôpitaux, sont différentes de ceux des pays en développement. Étant étudiant, il nous a été difficile d'accéder à ces normes, d'autant plus qu'elles sont payantes. Il faudrait, dans une démarche de l'autéquisation, les rendre plus accessibles et voire même, dans une démarche ultérieure, de pouvoir les remettre en cause.
Oui, les discuter, hein, c'est ça, effectivement. Bon, vous n'avez pas forcément eu l'espace dans votre projet. Hein, c'est un projet, les projets d'IS3 sont des projets, effectivement, qui permettent de démarrer sur des problématiques. Donc, c'est en tout cas une question pertinente de vos collègues. C'est évidemment des questions à se poser, ce positionnement par rapport aux normes. Mais comme vous l'avez dit, à un moment, la conception peut aussi avoir comme objet de les discuter, en quelque sorte, ces normes. On a une deuxième question qui nous a été proposée par vos collègues, que je vous livre. Est-ce que, en fait, vous avez là quelques exemples de matériaux, hein, peut-être voilà, pour concrétiser un petit peu ce que vous nous avez présenté tout à l'heure, des exemples de matériaux pour le prototype d'incubateur type que vous nous avez présenté, qui va permettre de garantir par exemple son faible coût. Et une des questions qui était sous-jacente derrière, c'était de savoir si c'était surtout destiné à des grandes structures, à des particuliers, voir un petit peu le dimensionnement de ça. Est-ce que ça pourrait être utilisé par exemple par un collège ou un lycée voilà.
Alors, nous, on a réfléchi à déjà quelques idées de matériaux. On a pensé, par exemple, à utiliser des batteries d'ordinateurs qui, eux, sont déjà usées. Je parle des ordinateurs, bien sûr. Et ces batteries, on peut les réutiliser directement, mais il faudra les revérifier à chaque fois. Nous avons aussi pensé à directement emballer notre incubateur avec des couvertures de survie pour effectuer un principe de marmite norvégienne. Alors pour rappel, le principe, c'est isoler un récipient dans un caisson et le laisser chauffer avec une chaleur initiale déjà présente à l'intérieur de l'incubateur. Nous avons aussi pensé à utiliser la chaleur, l'énergie solaire, en peignant l'incubateur en noir. C'est-à-dire qu'il va capter la chaleur, il va absorber toute la lumière et ne pas la perdre. Nous avons aussi pensé à utiliser des plaques en PET, polyéréphtalane d'éthylène. Je suis désolé, je ne maîtrise pas très bien la chimie. Et pour ça, nous avons pensé à les faire par impression 3D. C'est-à-dire qu'on va utiliser directement pas mal d'objets plastiques du même matériau qu'on va briser et on va les recycler en plaques. Comme me l'a dit mon camarade tout à l'heure, il faut utiliser certaines normes, notamment rendre la surface hydrofuge et résistante à l'éthanol. C'est pour ça que nous avons pensé à également utiliser des chambres à air recyclées. Donc, pour rappel, les chambres à air, c'est ce qui se trouve sur les roues du vélo. Peut-être les experts s'y connaîtront mieux que moi, c'est pas impossible. Et nous avons également pensé à utiliser, pourquoi pas, des joints en silicone. Pour répondre à la partie sous-jacente de la question, ça peut être des matériaux utilisables par un peu tout le monde. On a essayé de mettre un maximum de personnes dedans. Donc on voit que c'est pas forcément des matériaux trop complexes. Mais si vraiment, par exemple, des entreprises veulent reprendre le produit, elles auront largement les capacités. Mais en même temps, des collèges ou des lycées seraient également en mesure de les retrouver aussi.
Eh bien, merci. Ouais, on a vu des chambres à air, des couvertures de survie, un peu de peinture noire, éventuellement un peu plus de chimie. Et puis, on s'en sort avec votre projet. Ben, merci beaucoup à tous les deux. À présent, je vais proposer à vos collègues, vos trois collègues du projet Deezer, de répondre à une question dont je fais la synthèse un peu des deux questions qui vous ont été posées. Mais donc, la question qui vous a été posée, c'est globalement, il y a peut-être un petit risque de... Donc, un de vos collègues a utilisé le terme d'hétéronomie dans le projet, c'est-à-dire le fait à un moment qu'en quelque sorte, on est une nouvelle dépendance à un nouvel outil technique, les gens les agriculteurs perdent encore de l'autonomie en quelque sorte avec cet ajout de numérisation. Alors, on a vu un peu dans votre projet que malgré tout, ça restait assez léger, mais néanmoins, la question est intéressante. Et puis, peut-être dans la même continuité, qu'est-ce qui se passe quand il y a des données aberrantes? Qu'est-ce qui se passe quand il y a des prévisions avec lesquelles on n'est pas d'accord ou on a l'impression que ça ne fonctionne pas ou éventuellement qu'on ne saurait pas le faire ou qu'on ne comprend pas tout? En gros, voilà, y a un petit peu la question qui se pose derrière, en quelque sorte, toute numérisation. À chaque fois, on a un peu le risque d'être un peu perdu devant des informations ou une machine avec lesquelles ça ne fonctionne pas. En quelque sorte, quand tout marche bien, ça va. Comme nos ordinateurs, on est un peu au courant. Puis quand ça ne marche plus, si par exemple, la console radio se met à mal fonctionner, eh bien on risque d'être un petit peu perdu. Alors dans ce cas-là, est-ce que vous avez imaginé des choses autour de ça?
Alors il faut tout d'abord bien se remettre dans le contexte que Deezer est un outil qui n'est pas censé remplacer l'agriculteur, mais vraiment être complémentaire avec l'agriculteur. Il n'y a pas non plus vraiment de données aberrantes finalement dans le cadre de Deezer. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir des données de terrain qui ne suivent pas toujours les prévisions des agronomes. Après, le but est aussi de garder des contacts humains, de mettre en contact les agriculteurs, les agronomes et les conseillers agricoles. Et justement, si l'agriculteur ou l'agronome a l'impression qu'il y a une donnée aberrante ou quelque chose qui sort du contexte, ils peuvent tout à fait se passer un coup de fil pour comprendre et discuter ensemble des raisons de ces données qui dérogent en quelque sorte aux prévisions.
Ok, bah ouais, merci. Je pense que vous l'aviez présenté déjà avec le conseiller. Vous avez pensé un peu à ces différents éléments. Et comme l'a dit aussi notre rôle d'agricultrice, notre agricultrice dans son rôle tout à l'heure, eh bien, l'enjeu, c'est peut-être aussi de créer même des relations sociales qui ont peut-être aujourd'hui, qui sont plutôt affaiblies dans le milieu agricole. Et là, l'outil peut être utilisé de cette façon-là pour recréer des liens sociaux, du partage et de la convivialité au sein du métier. Eh ben, merci beaucoup à tous les cinq. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, sinon on va peut-être se quitter là-dessus. Merci beaucoup à vous donc d'avoir mis en lumière différents aspects de ce cours. Vous nous avez parlé un peu de l'évaluation, des sept péchés du greenwashing, d'un certain nombre d'éléments. On a vu le carré du soin, on avait entendu parler d'effet rebond avant. Voilà, tout un tas de choses que l'on voit un peu dans le cadre d'IS3. Alors, vous l'avez compris, c'est des projets de conception, mais on a vu qu'ils étaient aussi en relation avec des vraies problématiques de terrain. Vous avez été en contact avec des professionnels, vous avez pu échanger avec eux, et puis un certain nombre de ces projets, notamment le projet Deezer et le projet incubateur également, et bien auront certainement des suites. Donc peut-être qu'on vous retrouvera dans le cadre d'une autre vie, peut-être de chimie par exemple, d'ici un an ou deux, pour venir présenter la suite de ces projets. On s'en tient là. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.